Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Voilà, notre deuxième enseignement, après avoir parlé de Dieu le Père, porte sur Dieu le Fils. C'est logique. Nous avons commencé par la première personne de la Trinité, le Père, et nous passons à la seconde. Le credo des apôtres nous dit que je crois en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, donc sous-entendu le Fils unique de Dieu le Père, qui est pour nous un Seigneur, notre Seigneur, et on nous dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, etc. Le credo de Nicée-Constantinople reprend ces éléments de foi, mais va insister sur certains points. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Nicée, du concile de Nicée, on est aux alentours du IVe siècle, eh bien, il y a des chrétiens qui se sont mis à penser qu'il y avait deux Christ. Alors n'imaginez pas qu'il y aurait deux Jésus, mais qu'il y a un Jésus qui est quand même plus homme et un qui est Dieu. C'est-à-dire on se dispute, ceux qui croient que Jésus n'est que Dieu, sous-entendu du coup il n'aurait pas vraiment été un homme, s'il est devenu homme c'est comme nous quand on prend un déguisement, si je prends un déguisement de sorcière, ça ne veut pas dire que je suis une sorcière, mais je me suis déguisé en sorcière, puis après j'enlève le déguisement et je redeviens Laetitia. Donc certains disent, il est Dieu, mais il n'a pris son humanité que comme un déguisement, parce que comme il est Dieu, c'est supérieur à homme, donc il le prend comme un déguisement, et donc, sur le bois de la croix, non seulement il n'a pas vraiment mal, il joue la comédie, aïe 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 aïe, en fait j'ai pas mal, parce que je suis Dieu, j'ai pas de corps. Et du coup, il fait exprès de mourir sur le bois de la croix. Ce sont des raisonnements poussés à l'extrême, mais pour bien comprendre que pour certains, Jésus, il est plus Dieu que homme. Et pour les autres, c'est l'inverse. Jésus, c'est vraiment un homme, qui est vraiment le fils de Marie, peut-être même de Joseph, et qui a été adopté par Dieu au jour du baptême. Ils interprètent mal le ciel qui se déchire et la voix de Dieu le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le, comme si Jésus n'était devenu le Fils de Dieu qu'au jour de son baptême. Comme nous, chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu au jour de notre baptême. » Donc vous voyez un peu la division qu'il pouvait y avoir. Est-ce que Jésus, il est plus Dieu que homme ? Où est-ce qu'il est plus homme qu'il n'est Dieu ? Que répond l'Église ? L'Église, elle ne répond pas comme dans la mythologie ancienne que c'est un demi-dieu. Peut-être pour ceux qui connaissent un peu les dieux grecs ou les dieux romains, voyez la figure d'Hercule. Hercule est un demi-dieu parce que d'un côté, dans ses parents, il a un dieu et de l'autre, il a un homme. Alors, puisqu'ils ont fait un enfant ensemble, voilà qu'il est un demi-dieu, 50% Dieu, on pourrait dire en mathématiques, 50% homme. Jésus n'est pas un demi-dieu, il est Dieu, à 100%. Et lorsqu'il devient homme par la Vierge Marie, il devient homme également à 100%. Il est véritablement Dieu et en même temps véritablement homme. Ce n'est pas la même chose, et il est pleinement l'un et pleinement l'autre. C'est ce sur quoi le concile de Nicée veut insister. C'est pourquoi il nous dit ceci, « Je crois en un seul Seigneur, son prénom Jésus, second prénom on pourrait même dire Emmanuel, puisqu'on nous dit qu'il sera l'Emmanuel Dieu avec nous. Ce prénom Jésus, est-ce qu'on se rappelle ce que ça veut dire le prénom Jésus ? Ça a un sens bien précis. On l'a vu en étudiant le songe à Saint-Joseph. L'ange lui dit, il s'appellera Jésus, c'est-à-dire, Timéo ? Non. Presque. Dieu sauve. Donc Emmanuel veut dire Dieu, il sera l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et on comprend que puisqu'il est Dieu et qu'il prend notre humanité, il est vraiment Dieu avec nous. Mais il est également, dans sa mission, on l'appellera Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Et c'est véritablement Dieu qui vient nous sauver. Certains pouvaient s'appeler Josué, Jésus, parce que c'était l'espérance qu'un jour Dieu sauverait. Mais Jésus, c'est plus que l'espérance. Il est le sauveur. Donc, on l'appelle Jésus, c'est son prénom humain. C'est le prénom que l'ange Gabriel dit à Marie, il s'appellera Jésus. C'est le prénom que l'ange dit également à Joseph, il s'appellera Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Christ, ce n'est pas son nom de famille, c'est sa mission. Christ en grec, c'est Messie en hébreu, c'est-à-dire qu'il est l'envoyé de Dieu. Il est plus que l'envoyé de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. D'accord ? Donc, Jésus, Christ n'est pas son nom de famille. Quel est son nom de famille à Jésus ? Mélodie ? Ou Coralie ? Fils de David, très bien. Ça, c'est le nom de famille de Jésus. Fils de David, sous-entendu, dans les ancêtres de Jésus, il y a le roi David, hein, donc qui est le David qui est de la famille de Jessé, de la tribu de Jessé. Alors, donc on nous dit, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et notre traduction française, qui est profondément imparfaite, va utiliser un mot qui ne convient pas, c'est le mot naître. Né du Père avant tous les siècles. Pour nous, la naissance, c'est quelque chose de très charnel. Pour naître, je dois passer 9 mois dans le ventre de ma mère, et ce qu'on appelle la naissance, c'est quand je sors du ventre de ma mère et que je viens, comme on dit, au monde. Alors, en latin, on dira plutôt « Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, du Père, il vient, sous-entendu, du Père avant tous les siècles. » Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a créé le temps. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, la première chose que Dieu crée, quand on nous dit « la lumière soit et la lumière fut », on nous dit ensuite « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour ». Puisqu'on nous dit qu'il y a de la lumière, mais que les luminaires, le soleil et la lune, ne sont créés que le quatrième jour, il ne s'agit pas pour nous de la lumière qui est claire et de la nuit qui n'a pas de lumière. Il s'agit du temps qui passe. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. La première chose que Dieu crée, c'est le temps. Parce que Dieu lui-même n'est pas soumis au temps. Comment est-ce qu'on appelle le rapport au temps qu'entretient Dieu ? Lui qui n'a ni commencement ni fin. Comment est-ce qu'on appelle la temporalité de Dieu ? Dieu, il n'est pas soumis au temps qui passe. Il est un mot en 3 syllabes. Si je vous le dis, vous allez avec évidence dire « Ah oui !» Quel est le rapport de Dieu au temps ? Puisqu'il n'a pas une naissance, puisqu'il n'a pas un commencement, puisqu'il n'a pas de fin, il est toujours là, toujours présent. En lui, pas de futur ni de passé, puisqu'il est présent. Quel est l'adjectif qui dit cela ? Ce que nous ne sommes pas ici, puisque nous on est là que de passage, brièvement, mais nous entrerons dans cette temporalité de Dieu. Et oui, Dieu est éternel, c'est-à-dire il est éternellement présent. Il n'y a pas de passé pour lui, parce qu'il est toujours présent. Il n'y a pas de futur qui doit arriver, il est l'éternelle présence. C'est ainsi qu'il se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Il lui dit au sens très fort du terme, « Je suis ». Sous-entendu, j'étais, je serai, parce que je suis. Et Jésus reprend très souvent ce nom de Dieu qu'il ne fallait pas, par respect de Dieu, prononcer. Particulièrement prononcer en vain, comme nous le disent les commandements de Moïse. Tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu. Du coup, on s'interdit d'appeler Dieu par ce nom très saint, « Je suis ». C'est un temps de conjugaison en hébreu qui n'a pour sujet que Dieu. Il dit en même temps présent, passé, futur. Nous, dans notre grammaire, on distingue. Il y a les temps du passé, il y a les temps du futur, le futur proche, le futur plus lointain, il y a le présent, mais on n'a pas un seul temps qui nous dit les trois. Eh bien là, on l'a dans la langue hébreu. Et il a Dieu pour sujet. Je suis. Et Jésus reprend ce nom et il le thématise. Je suis le bon berger. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Vous voyez que Jésus y revendique très souvent ce nom de Dieu. Je suis pour nous dire que finalement il est toujours présent. Tout à l'heure, on disait que Dieu, il n'est pas proche ou lointain, puisqu'il n'a pas de corps, il est toujours là. Et comme saint Augustin en fait l'expérience au commencement des confessions, il se rend compte, lorsqu'il devient croyant, il se dit « Mais où étiez-vous, Dieu, lorsque je ne croyais pas en vous? Est-ce que c'est vous qui étiez loin ?» Et saint Augustin se dit « Eh non, c'est moi qui étais éloigné à moi-même, parce que Dieu est au plus profond de moi-même, dans mon âme. » Alors, reprenons ici ce que nous dit le credo de Nicée. Le Fils, il vient du Père avant tous les siècles, c'est-à-dire avant même qu'il n'y ait la création du temps. Le temps est une créature. Comme chacun d'entre nous, nous sommes une créature. Le temps est créé. Donc, il est né avant tous les siècles, c'est-à-dire avant qu'il y ait le temps. Et dans la liturgie de la messe, comment est-ce qu'on appelle cette éternité? On appelle ça les siècles des siècles. Pour bien montrer que c'est... Parce que pour nous, voyez-vous, nous on a un rapport au temps, on a besoin de quantifier le temps. On a besoin d'avoir une montre pour nous dire les heures, pour nous dire les minutes. On vient de faire une course en récréation, on a mesuré même les secondes. Donc vous voyez qu'on a besoin, nous, d'un rapport au temps. Dès qu'on est petit, on dit « Quand je serai grand, je ferai telle ou telle chose. » Timéo nous dit hier soir « Je serai pilote de ligne. » D'accord ? Donc on a besoin d'un rapport au temps. Là, on prépare la profession de foi lorsque j'aurai fait ma profession de foi. Nous, on se situe toujours. Ou lorsque j'étais petit, j'ai fait telle et telle chose. Donc nous, on se situe dans le temps. Et on a besoin de le quantifier. Mais pour dire l'éternité, qui pour nous c'est quelque chose de très long, qui pourrait même donner le vertige, pas avoir un commencement, pas avoir une fin, être toujours là, ben nous on appelle ça les siècles des siècles. Et chaque fois qu'on prie, on termine la prière en disant « Par Jésus le Christ, ton Fils, sous-entendu on parle à Dieu le Père, notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles », ça veut dire l'éternité de Dieu. On nous dit de ce Jésus, qui va naître aux environs de l'an zéro, qu'il est né pourtant avant tous les siècles. Alors né, ce n'est pas naître au sens de la chair, puisque nous avons vu que Dieu n'a pas de corps, il est en fait engendré de Dieu le Père, c'est ce que l'on va dire en suivant. Donc on nous dit que ce Jésus, il est Dieu. Né de Dieu, alors né c'est toujours pas bon, mais on pourrait dire il est Dieu venant de Dieu, il est la lumière venant de la lumière, il est le vrai Dieu qui vient du vrai Dieu. Alors, puisqu'on dit que naître ce n'est pas un bon mot, puisque naître, voyez, nous c'est vraiment le rapport au corps, naître. Eh bien, on va utiliser un mot. On ne peut pas dire non plus que Jésus est créé, parce que finalement, nous, quand on dit naître, c'est aussi être créé. Nos parents, pour nous mettre au monde, ils ont ce qu'on appelle procréé. C'est-à-dire, ils répondent à cet appel de la loi de la nature qui nous vient de Dieu, « Croissez, multipliez-vous ». Et Dieu nous dit, « L'homme prendra sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » C'est ainsi qu'ils feront des enfants. J'insiste sur ce point parce que nous vivons dans un monde qui est complètement devenu fou, y compris à ce sujet. Peut-être avez-vous entendu aujourd'hui à l'école que dans les papiers de notre État français, qui est complètement devenu fou, maintenant on ne peut même plus avoir marqué « père » et « mère », mais maintenant « parent 1 » et « parent 2 ». Parce qu'on laisse entendre que deux femmes ensemble où deux hommes ensemble réussiraient à faire des enfants, ce qui ne marche pas. Seul un homme et une femme peuvent mettre au monde un enfant. D'où le fait qu'il y a forcément un père et qu'il y a forcément une mère. Notre monde est un monde qui s'est éloigné de Dieu et qui ne cesse pas de dire des mensonges. Parce que même un enfant qui serait élevé par deux mamans, ben, il y a forcément un papa qui a fait le travail à un moment donné. Parce que ça ne marche pas. On ne peut pas faire un enfant sans un père et sans une mère. Et vous voyez que notre monde est également injuste vis-à-vis des enfants, puisque du coup les parents peuvent divorcer, mais l'enfant, il a quand même le droit d'avoir un papa et une maman. C'est un droit pour lui. Il a besoin de son père et il a besoin de sa mère. Et vous savez chacun, même si on aime et notre père et notre mère, qu'on n'a pas le même rapport avec son papa et sa maman. Souvent on dit d'ailleurs qu'une fille sera plus proche de son papa et que les garçons seront plus proches de la maman. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de rapport avec son père ou sa mère, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose et qu'on va également être éduqué dans la différence. Je suis un garçon, mais j'apprends à être un garçon parce que je vois mon père et parce que je vois ma mère. Donc tout cela est pourtant très important, mais notre monde est devenu profondément menteur parce qu'il s'éloigne de Dieu. Alors revenons à nos moutons, si nous pouvons dire, c'est l'agneau de Dieu, Jésus le Christ. On nous dit, il n'est pas créé, voyez, au sens matériel du terme, comme nous, nous avons été créés, nous avons un corps. Eh bien, pour dire qu'il vient du Père, on dit il est engendré, c'est-à-dire il vient du Père. Il est de même nature que le Père. Là aussi, notre traduction française n'est pas bonne, parce que être de même nature que pourrait laisser penser qu'il y a deux natures semblables. Il partage la même nature divine. C'est pourquoi la prochaine traduction du Credo, qui arrivera dans quelques temps, dans quelques années, l'Église a toujours le temps dans ce genre de choses, eh bien, c'est reprendre le mot « consubstantiel au Père ». Il a la même substance ou la même nature que Dieu le Père. J'explique ce point qui peut paraître difficile. Nous sommes ici, dans cet oratoire, huit. Huit personnes. Combien y a-t-il de nature humaine ?
Huit.
Une seule nature humaine. Nous la partageons, parce que nous sommes chacun homme au sens d'un être humain. Nous partageons la même nature humaine. Il y aurait dans cette pièce huit personnes humaines et un chat, il y aurait deux natures très différentes. Il y aurait la nature humaine et il y aurait la nature féline, le chat. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. On n'a pas la même moustache, on n'a pas les mêmes ongles, même si on les laisse pousser. Et on n'a pas du tout la même intelligence. Le chat, il ne va pas dire « Quelle heure est-il ? Ah, c'est l'heure d'aller manger mes croquettes !» Non. Il va dire, parce qu'il est habitué, par son instinct, « J'ai faim. » Ou il voit passer la souris, oh « ben là, même si ce n'est pas l'heure, je mange. » D'accord ? Donc, on n'a pas du tout le même rapport aux choses. Mais nous, entre nous, ici, nous avons en partage une même nature humaine. Mais elle est individualisée dans nos corps. Ainsi, Jonathan, qui a la nature humaine, n'est pas Timéo. Et Timéo n'est pas Coralie, et Coralie n'est pas Camille, et Camille n'est pas Laetitia, et Laetitia, même si elles sont jumelles, Camille et Laetitia, elles ont quand même chacune leur personnalité, leur patrimoine génétique, un certain nombre. Mais elles sont toutes deux hommes, au sens de être humain, bien qu'elles soient femmes. Alors là, ça devient compliqué. Donc, on comprend bien que nous avons chacun ici la même nature humaine. Je prends un exemple plus corporel. Si nous allons chez le médecin, c'est bien parce que nous avons chacun une nature humaine commune qui fait que le médecin n'est pas en train de dire « Alors voyons, chez vous, le cœur se situe où ?»« Ah, chez vous, il est dans le pied droit. » Chez le patient avant, il était en haut de l'épaule droite. Chez le patient avant, il était en plein milieu de sa tête. Chez l'autre, il était dans son nez. Alors, voyez, le docteur n'est pas sans cesse en train de se dire « Tiens, le corps humain est différent chez tout le monde. » Non, il y a des choses extrêmement semblables et régulières. Le rythme sanguin, la tension, bien que ça peut varier, mais il y a quand même une normalité des choses. La respiration, tout un tas de choses semblables. Même s'il y a différents groupes sanguins, il n'y en a pas non plus des millions. Il y en a trois. D'accord ? Donc il y a des choses comme ça qui se répètent et que nous avons en commun. Ben, de même avec l'intelligence et la mémoire. Si nous pouvons nous transmettre des connaissances, c'est parce que chacun, nous sommes capables de les comprendre et de les emmagasiner. Nous ne remettons pas à zéro tout le savoir de notre époque, de notre temps, hérité du passé, chaque fois que quelqu'un vient au monde. On devrait réinventer l'alphabet, on devrait réinventer les syllabes, réinventer tous les mots de vocabulaire, tous les synonymes, vous imaginez? Non, tout ça, voyez-vous, on se le transmet. Et si vous allez à l'école, c'est pour qu'on vous transmet cette instruction qui vient de très loin. Hein, et qu'on se transmet ainsi, et qu'on ajoute de génération en génération. Donc il y a des choses communes. Parce que nous avons une même nature. Eh bien, revenons à Dieu le Fils. Pourquoi il n'a pas la même nature que Dieu le Père? Parce que ce n'est pas deux natures. C'est la même nature. Il est co-naturel, pourrions-nous dire, consubstantiel au Père. Il partage la même nature divine. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, trois personnes qui forment un seul Dieu parce qu'ils partagent l'unique nature divine. Tout comme nous ici, nous partageons l'unique nature humaine. Ça va ? Bon, c'est des choses compliquées, mais enfin, il faut bien en venir par là. Donc, je relis un peu ça. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, du Père. Il vient du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, vraiment Dieu. Pas un demi-Dieu où il serait moins Dieu parce qu'il est le Fils et que le Père le serait davantage. Il est Dieu. Il vient de Dieu. Image, c'est la lumière qui vient de la lumière. C'est ainsi que commence le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Il est le vrai Dieu qui vient du vrai Dieu. Vous voyez, il n'est pas à moitié vrai. Il est le vrai Dieu. Il est engendré, non pas créé, c'est pas une créature. Il a la même nature, enfin, il est consubstantiel au Père. Et voilà ce que l'on dit de la création. Et par lui, tout a été fait. Tout à l'heure, je vous disais, on croit en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Comment Dieu le Père a tout créé ? Par Jésus le Christ. Par lui, tout a été fait. Ça va déjà pour ça ?
Oui.
Bon. Ce que nous disait le credo des apôtres était beaucoup plus court. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Ça allait beaucoup plus vite. Mais à Nicée, comme je vous ai dit, il y avait cette querelle entre un Jésus qui serait à moitié Dieu et à moitié homme, ou plus l'un que l'autre. Il a fallu remettre, comme on dit, les points sur les i, ou comme dit Jésus dans l'Évangile, les traits sur les iota. C'est la même chose, mais c'est dans la langue hébraïque. Alors ensuite, on en vient à pourquoi Jésus vient sur la terre. Plutôt, pourquoi le Fils, qui est Dieu, quitte le ciel, où il est avec son Père, pour venir ici-bas sur la terre. Sous-entendu, pourquoi est-ce qu'il devient homme? Dans quel but? Et c'est ainsi que on va répondre. Je prends le credo de Nicée-Constantinople. Pourquoi est-ce que Jésus vient ici-bas sur la terre? Nous avons la réponse. Pour nous les hommes. Eh oui, c'est pas pour les anges. D'ailleurs, si c'était pour les anges que Jésus devait venir, que devait être le sauveur, il n'aurait pas eu besoin de prendre un corps, puisque les anges n'ont pas de corps. Mais pour nous les hommes, et pour nous sauver, ça veut dire pour notre salut, salut. Ce n'est pas le verbe « saluer », là, ça vient de « sauter » en latin, c'est le verbe « sauver ». Je vais sauver les hommes, Jésus vient opérer le salut. Donc, pour nous les hommes et pour notre salut, donc pour nous sauver, il descendit du ciel. Comment est-ce qu'il est descendu du ciel? Alors déjà, descendu pour nous, ça suppose un corps ou un parachute. Comment est-ce que je descends de l'avion sur Terre? Ben, soit l'avion atterrit et se pose, et je descends de l'avion, soit l'avion me lâche, mais mieux vaut que j'ai un parachute, pour pouvoir descendre de la Terre au ciel. Vous voyez qu'il y a un rapport corporel à cette idée de descendre. Descendre un escalier, ou le monter, ben, c'est un rapport au corps, c'est physique. Dans la course que vous avez fait, vous avez monté et descendu un escalier, c'est physique. Bon, eh bien Jésus, le Fils, il descend du ciel par l'Esprit Saint. Et on nous dit par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Puisqu'il est le Fils unique de Dieu, il n'a pas de corps, nous l'avons vu. Il n'a pas de chair, c'est-à-dire un corps vivant. Il n'a pas de pied, il n'a pas de main, il n'a pas vraiment des yeux. Pourtant, il voit, parce qu'il est Dieu. Eh bien, il prend sa chair de la Vierge Marie. Alors on nous dit de la Vierge Marie. C'est-à-dire que Jésus, contrairement à nous, c'est un miracle, c'est une exception, il n'est homme que par sa mère. Il ne peut pas ressembler à Dieu son Père, qui n'a pas de corps. Il ressemble à la Vierge Marie. C'est vraiment le fils de Marie, mais il ne sera que le fils adoptif de Joseph. D'accord ? Que adopté par Joseph. Joseph n'est pas le vrai père de Jésus, ce n'est pas Marie et Joseph qui, au sein de leur mariage, au sein d'une relation sexuelle, qui auraient mis au monde Jésus. Non, Marie, elle reste vierge, c'est-à-dire, comme elle dit Annonciation, elle ne connaît pas d'homme, connaître au sens dans son lit. Vous imaginez ce que cela veut dire. Elle n'a jamais eu de relation intime avec un homme. Elle est fiancée à Joseph, nous dit-on, d'où sa question. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Sous-entendu, est-ce qu'il faut que je me marie avec Joseph? Est-ce que c'est au sein de notre union matrimoniale que je vais mettre au monde ce Jésus? Non. L'Esprit Saint viendra sur toi et sa puissance te prendra sous son ombre. Ça reste profondément mystérieux. C'est par l'Esprit Saint que Dieu le Père envoie le Fils. Et ce rapport-là, nous l'avions vu dans la retraite de première communion. Comment est-ce que Jésus vient dans l'hostie sainte? Parce que le prêtre parle à Dieu le Père, il lui demande d'envoyer Dieu le Fils. Comment cela se fait-il? Par l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est toujours ce même rapport. On l'a vu dans la création. Dieu le Père, il veut créer le monde, il va le créer par le Fils, dans le Saint-Esprit. Et bien là, c'est ce qui s'est passé. L'Esprit Saint est venu sur Marie. Marie est devenue enceinte, on le dit, par l'opération du Saint-Esprit. C'est même devenu une expression. Par l'opération du Saint-Esprit. Et alors, Jésus est devenu homme. Ce qui veut dire que Marie, elle est la mère de l'humanité de Jésus, et parce qu'elle est la mère de l'humanité de Jésus, elle est également appelée la mère de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a une mère, au sens où Dieu le Père aurait, il y aurait le Dieu grand-père et le Dieu grand-mère qui auraient mis au monde Dieu le Père, qui avec une Dieu le Mère aurait mis au monde Dieu le Fils. Ça, c'est très humain. D'accord ? La Vierge Marie, on peut dire qu'elle est la mère de Dieu parce qu'en Jésus se trouve pas une nature. Deux natures. Quelles sont ces deux natures? La nature humaine et... Oui ?
La nature divine.
Et la nature divine. Et je prends des exemples concrets pour illustrer ça. Jésus a appris à marcher sur la terre. Ben oui, parce que quand on commence à naître, même s'il est Dieu, il a dû apprendre à marcher. Donc il tombe, il marche à quatre pattes peut-être au début, il se lève, il apprend à marcher, puis à courir. Nature humaine ou nature divine ?
Nature humaine.
Nature humaine. Jésus, à Cana, va changer l'eau en vin. Nature humaine ou nature divine ?
Nature divine.
Ben, nature divine, parce qu'il n'appartient pas à l'homme, tout d'un coup, de changer l'eau en vin. Ou alors, je vide le verre et je le remplis de vin, mais ça, c'est pas changé. Jésus va mourir sur le bois de la croix. Eh oui, nature humaine, parce que qu'est-ce qui meurt? Seulement l'homme meurt, mais Dieu est immortel. Pourquoi est-ce qu'il est immortel? Et parce qu'il n'a pas de corps. Qu'est-ce qui meurt en nous? Le corps, pas notre âme. On y viendra. Jésus ressuscite d'entre les morts.
Et nature divine.
Et vous comprenez que si Jésus peut véritablement mourir sur le bois de la croix, c'est son humanité. Quand Jésus est au jardin de Gethsémani et qu'il a peur de mourir, c'est son humanité qui a peur, qui est angoissée. Mais lorsqu'il peut ressusciter d'entre les morts, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas ressusciter tout seul? Parce qu'on n'est pas Dieu. Mais lui, il est la nature divine. Il a tout créé, il est tout puissant. Lui, il peut ressusciter. Et il peut surtout nous faire ressusciter à sa suite, parce qu'il est Dieu. Il nous a déjà créé une fois à partir de rien. Et donc, quand on va mettre en terre notre corps qui va se décomposer au dernier jour, il pourra rendre la vie à notre corps. Surtout que nous ne sommes pas qu'un corps. Qu'est-ce que nous avons également?
Une âme.
Et le corps est mortel, mais l'âme est immortelle. Elle est déjà éternelle. Ce qui veut dire finalement que nous n'avons pas été conçus que par nos parents. Corporellement, comme Jésus, nous venons de nos parents, de notre papa et de notre maman. Nous leur ressemblons. Nous avons un patrimoine génétique qui peut être semblable. Par exemple, maman a de l'asthme, j'ai aussi de l'asthme, par exemple. Ou ma grand-mère a les yeux bleus, j'ai les yeux bleus. De ce genre de choses. Mais, en revanche... Oui, Timéo ? Dépêchez-vous, vous auriez pu aller le faire pendant la récréation, voyez-vous. Donc, où est-ce que j'en étais, pardon, avec cette pause ? Oui, donc Jésus, en tant qu'homme, il a un corps... Non, nous, pardon, c'est là où j'en étais, excusez-moi. Nous avons un corps qui nous vient de notre père et de notre mère, mais dès le premier instant de notre conception... 9 mois, grosso modo, avant notre naissance. Dès le premier instant de notre conception, dès qu'il y a une toute première cellule, Dieu nous a insufflé une âme éternelle. Ce qui veut dire qu'on vient à la fois de Dieu, non seulement parce que Dieu a créé l'homme et la femme, et que l'homme et la femme font qu'ils vont me donner un corps, mais aussi parce que Dieu... m'insuffle dès le premier instant de ma conception dans le ventre de ma mère, qui est donc elle aussi le temple de Dieu, puisque Dieu, à l'intérieur du ventre de ma mère, m'a donné une âme éternelle. Donc vous voyez que je viens à la fois doublement de Dieu par mon père et ma mère, mais également directement de Dieu parce qu'il m'a insufflé une âme. Et même nos jumelles, Camille et Laetitia, qui se ressemblent, même si une a la frange et l'autre non. Bon. Et même si elles ont été ensemble dans le ventre de leur mère, si vous êtes de vraies jumelles, donc dans la même poche, comme l'on dit. Parce que les faux jumeaux, ils sont dans 2 poches différentes. Dans la même poche, elles ont vécu ensemble pendant 9 mois. Une est sortie avant l'autre, laquelle ? Laetitia ? Camille, pardon. Camille est donc sortie la première, mais dès le premier instant de leur conception, en même temps, pour le coup, là, il n'y en a pas une qui va plus vite que l'autre, qui est sortie plus avant que l'autre, parce qu'elle était plus proche de la porte, par exemple, ou plus pressée. Eh bien, au même instant, vous avez reçu une âme éternelle. Et du coup, vous êtes différente corporellement aussi, même si vous vous ressemblez, mais votre différence, elle est aussi dans le fait que vous avez chacune distinctement une âme éternelle. Et comme chacun d'entre nous, ce qu'on appelle la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Nous mourons quand notre âme a quitté le corps. Parce que je peux mourir et mon cœur peut continuer un peu à battre. C'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Ça arrive. C'est comme ça qu'on peut parfois donner ses organes. Ça existe. Parce que nous, des fois, on a l'impression qu'on ne meurt que quand le cœur ne bat plus. Non. Il y a des fois des accidents de la route qui font que le cœur continue encore à battre à un certain moment, mais au niveau de la tête, il y a la mort cérébrale. On n'est plus vivant. D'accord ? Donc du coup, là, on peut donner ses organes pour des personnes qui en auraient éventuellement besoin, par exemple. Parce que les organes continuent à être en bon état. Je peux donner mon foie, je peux donner des poumons, etc. Donc, la séparation du corps et de l'âme. Mon corps est mis en terre. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. On est mis en terre, cette terre dont Dieu s'est servi pour nous façonner, enterrée. Mais notre âme, elle, elle paraît face à Dieu. Et nous attendons du dernier jour que Dieu rende à notre âme son corps. Au ciel, nous ne serons pas qu'une âme, qu'un pur esprit. Nous retrouverons également notre corps. Alors pas notre corps à l'instant de la mort, ni notre corps affreux, tout décomposé, vous imaginez. Non, on aura un âge médian. Saint Thomas d'Aquin pense que c'est environ à 33 ans. Pourquoi ? Parce qu'il estime que d'abord c'est l'âge où le Christ meurt, nous le rapporte ainsi la tradition, mais que surtout 33 ans, on continue encore à monter, et à partir de 33 ans, voilà que l'on commence à vieillir. Et à décliner. Vous voyez, j'en ai 34, c'est fini, c'est le début de la fin. Donc, ça c'est juste pour essayer d'éventuellement de répondre à un certain nombre de questions. Oui, j'étais parfait, j'avais l'âge parfait. Donc, tout ça pour dire que le fait que le Fils de Dieu devienne homme, ben, s'il est homme, il a à la fois un corps, mais Dieu lui a également donné une âme. Donc il a à la fois un corps, une âme, et il a également la divinité. Corps et âme, ça fait la nature humaine, et la divinité. Si Jésus peut opérer des miracles, c'est parce qu'il est Dieu. Rappelez-vous dans l'Évangile, il commande même au vent. le vent s'arrête. Il commande à la mer s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, par lui, tout a été fait. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé la mer et tout ce que la mer renferme. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Alors chantons. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien.